Vous êtes sur RTL.
14h30, 15h.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère les plus sereins possibles dans cette période troublée. Merci pour votre fidélité et vos messages d'affection, si je puis dire, à cette émission. Chaque jour, ensemble, on essaie de transformer le quotidien, on essaie de raviver les couleurs avec des conversations tantôt profondes, tantôt légères, pourvu qu'on y mette un petit peu de bonne humeur et un soupçon de joie tant qu'on y est. Ça ne changera pas la face du monde, la marche du monde, mais ça peut changer un peu notre quotidien. En préparant le rendez-vous de ce jour, le coach sportif Nordin Attab nous a promis donc des exercices pour booster notre libido. Alors, je n'en sais pas plus, mais vous vous en doutez, on a tous sauté sur l'occasion. Ce sera à 15h en direct sur RTL, ça promet. Et puis, le chef Ligori Lecomte nous parlera du chocolat dont on dit aussi qu'il est aphrodisiaque d'ailleurs. Et il nous livrera une recette. Mais pour l'heure, si j'existe, c'est d'être fan, chante Pascal Obispo. Il suffit parfois d'une chanson, d'un film, d'un exploit, d'une émission, d'un livre, d'un sketch, d'une vidéo pour épouser l'univers d'un artiste, d'un sportif, d'un penseur, d'un animateur ou d'un influenceur. Alors comment et pourquoi devient-on fan? Qu'est-ce qui se joue dans l'admiration portée à une personnalité? Quels sont les bienfaits et puis les points de vigilance peut-être aussi que génère cette passion? Eh bien, on en parle avec nos invités. Jean-François Marmion, bonjour.
Bonjour Flavie.
Happy birthday to you.
Oh.
Happy birthday to you.
Happy
birthday to you, Jean-François.
Yeah.
Happy birthday to you. C'est votre anniversaire aujourd'hui.
Bah, mais oui, c'est vrai.
Et attendez, on a un petit cadeau pour vous.
C'est
écoutez.
Ah, bah oui.
Parce que non seulement aujourd'hui, vous avez 36 ans, mon cher Jean-François Marmion.
Ah oui, c'est plus, à peu près ça.
Mais en plus, vous êtes fan de Bowie.
Ouais, je suis fan de Bowie. Ouais.
Depuis
mon adolescence, en fait. C'est souvent à l'adolescence que les admirations sont les plus ferventes, parce qu'on cherche des modèles de substitution à ses parents.
Ouais.
Et moi, bah, j'allais avoir 17 ans. J'étais beau comme un enfant, fort comme un homme, et j'admirais Bowie parce que tous les ans, il changeait de style musical, de look, en incarnant des personnages. Et moi, qui étais un peu paumé, qui me cherchais, bah, j'ai compris qu'on pouvait se permettre d'avoir plusieurs vies, d'explorer, puis d'échouer.
Bien, ça vous fait un point commun avec Marie-Joëlle, qui nous écrit sur Facebook, totalement fan de David Bowie depuis l'âge de mes 13 ans. Talentueux venu d'un ailleurs, un être à part aux mille facettes. Donc, je pense que vous souscrivez aux propos de Marie-Joëlle. Joyeux anniversaire, Jean-François Marmion.
Merci
d'être avec nous et de nous apporter votre regard de psychologue. À vos côtés aujourd'hui, David von Graffenberg. Bonjour David.
Salut Flavie.
Merci d'être avec nous David. Vous êtes écrivain, vous êtes auteur d'un livre que j'adore, Madame de X, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et vous êtes fan de quoi ou de qui?
Moi j'étais très fan je suis toujours d'ailleurs, d'Élie Médéros, puis d'Emmanuel Kahn, qui ont été des femmes que j'ai rencontrées et qui m'ont permis de devenir celui que je suis aujourd'hui, quoi. Moi, ma chance, c'est qu'effectivement j'ai rencontré les personnes que j'admire et qu'elles ont eu un réel impact dans ma vie.
Alors ça c'est formidable, est-ce que c'est une fin en soi selon vous David de pouvoir rencontrer ceux que l'on admire? Parce qu'on court le risque de la rencontre, comme avec tout le monde d'ailleurs, hein, le risque d'être déçu, comme le risque effectivement qui se transforme en chance de pouvoir avoir leur empreinte toute une vie.
Ah, on court le risque de tomber sur des cornichons, ça il n'y a aucun doute, et ça m'est arrivé de tomber sur des personnes que j'admirais beaucoup, et d'être sorti des rendez-vous en me disant que c'était vraiment des personnes très sottes et que je ferais mieux de m'en détourner. Mais bon, l'élan premier que j'ai eu pour les personnes comme Élie ou Emmanuel était vraiment l'élan juste et sincère, et c'est vraiment, si je suis celui que je suis aujourd'hui, c'est vraiment grâce à elle. J'ai beaucoup plus appris à côté de ces personnes que j'admirais énormément que sur les bancs de l'école.
D'accord, ok, très bien. Bon, on va revenir justement sur l'influence de ces femmes dans votre vie. Jean-François Marmion, on a un message de Thomas. Quelle différence entre une personne qui aime un artiste et une personne qui en est fan? Où est-ce que ça se situe?
En fait, c'est un peu comme l'amitié et l'histoire d'amour. Quand on aime vraiment une personnalité, quelque part on a envie de lui dire, même de la croiser 5 minutes, simplement pour lui dire à quel point elle a compté pour nous. Et je crois que ça, c'est comme si elle lui appartenait à notre famille, en fait. Il y a des recherches en neurosciences qui montrent que lorsqu'on nous présente la photo de quelqu'un qu'on admire vraiment, ça nous fait le même effet dans le cerveau que lorsqu'on nous présente la photo de quelqu'un de notre famille.
Alors vraiment... comment on peut expliquer ça, Jean-François, aussi, à un moment donné? Est-ce que ça n'est pas excessif? Certains ont peur de ça, disant il faut être vigilant parce que ça peut prendre trop de place.
Oui, ça peut prendre trop de place. Ça peut virer à l'obsession chez certaines personnes qui se raccrochent à quelqu'un pour se définir, pour chercher qui elles sont, pour proclamer qui elles sont. Mais ça, c'est pas propre à l'admiration pour une star. Hein. Ça, c'est des personnes fragiles qui ont besoin de se cristalliser autour de quelque chose.
Eh ben justement. Ouais.
Mais évidemment, ça peut aller jusqu'au tragique. Hein. On a tous en mémoire ce qui est arrivé à John Lennon.
Exactement.
Il a été tué par un fan. On sait pas exactement quelles étaient les motivations. Il y a plusieurs théories. Mais enfin, il y a une photo terrible. On voit John Lennon signer une photo à son assassin. Mmh. Au type qui va lui tirer dans le dos quelques heures plus tard.
Sonia nous écrit, être fan quand on est adolescent, c'est plutôt classique. On reviendra sur l'origine justement de l'admiration. Et ça concourt, j'imagine, à la construction de la personne. Mais une fois adulte, ça questionne quand même. Une personne de 40 ans ou plus qui hurle en concert quand son idole apparaît, moi, ça me met mal à l'aise. Alors, on va se retrouver dans un instant tous ensemble, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL. S'il en est une aussi qui génère, je dirais, une grande, grande communauté de fans, c'est Mylène Farmer. Alors, elle pourrait peut-être s'apparenter à ce que vous disiez sur David Bowie. Hein, c'est une femme qui fait des shows absolument incroyables, qui a tout un univers aussi autour d'elle, qui à chaque fois qu'elle sort un album crée l'événement. C'est Alexis qui nous en parlera dans un instant. Nous sommes en direct sur RTL. À tout de suite, messieurs.
Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h.
On est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Qu'est-ce qui se joue dans l'admiration portée à une personnalité? Bah tiens, on vient d'entendre Mélodie Gardot. Moi, sa voix me bouleverse. J'écoute tous les albums de Mélodie Gardot et pourtant, je ne me considère pas comme fan. On va essayer de décrypter hein, ce phénomène et puis de faire la différence effectivement entre un fan, un admirateur. Certains nous y invitent. Tout ça en compagnie de Jean-François Marmion et de David von Graffenberg. Effectivement, on a Sonia qui nous explique qu'elle n'est pas très à l'aise face aux adultes qui deviennent fans. Patty de Soulignes, les fans parfois sont restés à un stade enfantin. Ils idolâtrent les artistes ou les sportifs comme on idolâtre ses parents quand on est petit. C'est en tout cas mon avis. C'est vrai que dans cette admiration, on s'en remet parfois aussi à la personnalité. Et nous sommes nombreux à admirer. Alors Laurence nous écrit qu'elle est fan de Michael Jackson. Yveline, mon maître à penser, se nomme Coluche, fan de ce grand, cet immense bonhomme. Quand il est parti, j'ai pleuré. Je pleure encore si j'en parle de trop. Je ne l'ai jamais rencontré. Ma grande est allée déposer une rose sur sa tombe pour moi. Ici, on me maudit souvent quand un de ces sketchs passe, car je marmonne en décalé. Alors, Alexis est en ligne avec nous. Il va nous parler justement de Mylène Farmer, qui a toute une communauté, je dirais, de fans. Bonjour Alexis.
Hey, bonjour Flavie. Bonjour
tout le monde. Soyez le bienvenu. Alors, vous avez quel âge? Vous êtes un grand garçon, vous?
J'ai 34 ans.
D'accord. Et quand avez-vous découvert Mylène Farmer?
J'avais 15-16 ans, à peu près.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez découverte?
Un gros déclic.
C'est-à-dire?
Je me rappelle, il y avait la diffusion du Live 96 à Bercy à la télé sur M6.
Ouais.
Et je me suis pris au concert et je suis vraiment resté dedans. Et je me rappelle, mais j'ai ce souvenir fixe qui ne bouge pas, m'être dit à la fin du concert, du haut de mes 15 ou 16 ans, j'arrête les Spice Girls et je me mets avec Mylène Farmer. Et c'est parti, mais tout bêtement comme ça. Et jusqu'à maintenant, bah, je suis encore le truc.
Mais qu'est-ce qu'elle a de si particulier?
Je ne sais pas. Moi, ce qui m'attirait chez elle, déjà gamin, c'était le personnage. Et puis la beauté. Parce qu'elle était déjà en 96, il y a quelques années en arrière, elle était magnifique. C'était
C'est vrai.
Une poupée, il faut dire ce qu'il y a. Et puis elle dégageait une féminité qui était quand même exacerbée.
Ouais.
Et c'était... Waouh. Elle était presque irréelle, pour vous dire.
Vous êtes déjà passé chez elle?
Oui, mes parents habitent à Paris, pas très très loin de chez elle. Et plus jeune, ouais, je prenais le temps de temps en temps d'aller à la villa et de déposer des fleurs à la loge, d'attendre un petit peu. Et deux, trois fois, on est arrivé chez la croisée en bas, donc super abordable, super gentil. Mais ça, c'est des choses que je faisais étant plus jeune, quand j'avais moins de, on va dire peut-être un peu moins de maturité.
Alors, est-ce que vous le feriez encore aujourd'hui?
Devant chez elle.
Ouais.
Si je devais passer, si par hasard on passait pas très loin, oui, je m'arrêterais. Déposer des fleurs, certainement. Après, je ne passerai plus des journées à l'attendre. À part pour les concerts, non, je ne serai plus.
Parce que vous l'avez fait, ça. Vous avez passé des journées à l'attendre,
oui. Quelle que soit la météo. Après, moi, j'allais sur Paris, admettons une semaine. Je n'avais pas 40 jours pour aller devant chez Mylène. Donc, j'ai décidé d'un jour et j'y allais. Quoi. En général, on était plusieurs.
Et alors, justement, quand vous l'attendiez et que vous la voyiez, qu'est-ce que vous ressentiez? Est-ce que vous ne passiez pas de temps avec elle? On est d'accord, vous pouviez l'attendre des heures pour un regard.
Exactement, non, en plus c'était sans l'aborder, en plus c'était juste l'attrait de la voir en fait. ah, elle est, c'est notre idole, elle est devant nous. Je sais pas comment vous expliquer ça. En plus, quand on est un peu plus jeune, on a tendance à les mettre sur un piédestal incroyable. Et c'était, ah, c'était presque une bénédiction de la voir. Et puis, alors, le câlin, le bisou, alors ça, c'était le Graal. Le Graal.
Elle est agréable avec ses fans.
Ah, elle est vraiment super gentille, très très abordable. Et
c'est vrai que c'est quelqu'un de
vraiment.
Ouais.
Ah ouais, vraiment. Ouais, ouais. Elle est vraiment pleine d'amour. C'est une femme qui est vraiment pleine d'amour.
Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Parce que David von Graffenberg nous expliquait il y a un instant aussi que lui, les personnes qu'il a admirées, qu'il a pu rencontrer aussi, ont eu une grande influence dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, elle?
Peut-être à m'affirmer, certainement d'ailleurs.
Pourquoi?
Parce que gamin homosexuel sans le savoir vraiment, parce qu'à plus à mon époque on n'en parlait pas. Ouais. Enfin, je réfère ça avec l'époque où il y avait Stevie dans Love Story. Et c'était pour moi l'époque où on commençait à en parler à la télévision ouvertement plus ou moins.
D'accord.
Et bah, elle m'a vraiment emmené sur un chemin, j'ai envie de dire. Je me suis construit, j'ai construit mon adolescence avec elle.
Donc elle a été tutorale en fait, hein, dans l'affirmation de vous-même, dans le...
Alors, d'accord. Au début, peut-être pas dans l'affirmation, peut-être dans le fait d'avoir, entre guillemets, quelqu'un qui me comprenait, quelqu'un qui avait des mots sur mes mots.
C'est dingue. Ouais, je comprends.
Pas faire le poète, mais...
C'est très touchant ce que vous nous dites et ce sont l'idée de la compréhension, c'est quelque chose que l'on entend souvent hein, dans la bouche d'admirateurs. Voilà, je me sentais compris. Jean-François Marmion, comment on peut expliquer ça, de se sentir compris par une personne que l'on ne connaît pas?
On se sent compris aussi parce qu'on intègre une communauté, on n'est pas fan tout seul. Lorsqu'on est en concert, par exemple, moi je sais que j'aime bien voir les vieux dinosaures comme Paul McCartney, les Stones, Blondie, des gens comme ça.
Ça nous en dit plus sur l'âge que vous avez aujourd'hui.
Ah, voilà. Non, il y en a tous les âges, détrompez-vous, il y en a tous les âges, c'est McCartney surtout. Et donc, quand j'y vais, je me dis, bah voilà, j'entre dans une salle, il y a des milliers de personnes que je connais pas et pourtant, on pourrait tous être un peu frères et sœurs parce qu'on a les mêmes. La même sensibilité, on a en partie les mêmes souvenirs, on a un peu la même vision du monde. Et c'est pour ça que ces scènes d'hystérie qui peuvent paraître bizarres vu de l'extérieur, mais on se sent heureux d'être ensemble grâce à quelqu'un qu'on admire. Il y a quelque chose de très enfantin là-dedans, mais dans le très bon sens du terme. Et vous savez que moi aussi, j'ai fait le pied de grue devant une star quand j'étais ado, c'était devant chez Gainsbourg. Pour mes 17 ans, j'ai séché les cours, je suis monté dans un train, je suis allé à Paris et je suis allé chez Gainsbourg parce que son adresse était notoire et j'ai pu le voir, j'ai pu discuter avec lui. Il m'a même tendu un feutre pour que j'écrive sur son mur parce que vous savez, son mur de graffiti, il venait d'être peint en blanc et il trouvait triste que les gens n'osent plus gribouiller quelque chose. Alors il m'a lui-même donné un feutre en me disant écris-moi quelque chose de gentil. Donc j'étais le premier à écrire sur le mur de Gainsbourg.
Ah, c'est génial. Et on sent que vous en êtes encore fier. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir témoigné sur cette antenne de votre passion, votre admiration pour Mylène Farmer. David von Graffenberg, on se retrouve dans un instant également sur RTL. Hubert nous écrit sur Twitter. J'ai pleuré quand Johnny Hallyday est mort et lors de la cérémonie d'hommage. J'ai un peu honte parfois car mon père est décédé quelques semaines avant lui. Et même si je l'aimais et que j'étais très triste, je n'ai pas réussi à avoir la même émotion que pour Johnny. Donc c'est dire effectivement comme c'est passions hein, peuvent être assez exclusives et singulières. On se retrouve dans un instant sur RTL. Alexis, je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous. On vient d'entendre le témoignage d'Alexis, David von Graffenberg. Cette idée d'être compris, puisqu'aujourd'hui on parle des fans, cette idée d'être compris par une personne que l'on ne connaît pas, comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer? Ça passe par quoi? Ça passe par un talent qui a une résonance en nous? Parce que bon, là on parle d'une chanteuse, mais on peut aussi être fan, comme je le disais, d'un comédien, on peut être fan d'un réalisateur, on peut être fan d'un artiste. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe en nous qui explique ce sentiment de familiarité?
Je crois que c'est un langage comme secret, un langage sans mots. On reconnaît chez la personne quelque chose qui a une résonance forte, qui touche vraisemblablement de l'ordre de l'inconscient. Mais pour moi, ce n'est pas que l'inconscient, c'est aussi l'idée d'une forme d'élan premier, comme si il y avait chez cette personne quelque chose qui n'appartient qu'à nous et qui est peut-être différent de ce dans quoi on a grandi, de par rapport à nos parents ou autres. Moi, si je peux rebondir sur mon anecdote personnelle, c'est vrai que Moi, j'ai vu Emmanuel Kahn par hasard un soir.
Ah, il faut dire Emmanuel Kahn, grande styliste, pardon, hein, quand même, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui ne la connaîtraient pas. Ouais.
C'est une grande créatrice, mais quand moi, je l'ai vue pour la première fois à la télé, dans un reportage ubuesque sur les années Palace, à 3h du matin, en étant amoureux, j'ai vu une femme avec des lunettes immenses, très connue pour ses lunettes ivoires gigantesques, et ça a été un espèce de coup de foudre immédiat que je n'ai pas expliqué. On s'est rencontrés après, j'ai fait tout... très longtemps après, 10 ans ou 15 ans après, par un concours de circonstances, on s'est rencontrés et on est devenus très très proches. C'était une amitié extrêmement forte jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est vrai que le dernier été avant qu'elle décède, on s'est interrogé, on était en vacances ensemble au bord de la plage, on s'est interrogé sur notre amitié qui surprenait beaucoup. On avait 40 ans de différence, les gens ne comprenaient pas ce que moi je faisais avec une personne aussi âgée, quand nous deux on savait qu'on était vraiment très bien ensemble. Et en discutant de ça, elle m'a dit « Petit chou, je crois que ce qu'on a en commun, c'est le goût du bonheur. » Et j'ai réalisé qu'en fait, ce goût du bonheur, c'est elle qui me l'avait transmis.
Ouais. Oui, cette transmission à distance, bien avant que vous ne vous rencontriez. Vous nous parliez tout à l'heure de rencontres qui parfois, c'était très drôle, ça vous ressemble. Hein, vous avez dit « Parfois, j'ai rencontré des cornichons. » Ce sont des rencontres de déception. Il y a Camille qui nous envoie un mail de Levallois-Perret. Je vous écris car le sujet d'aujourd'hui me rappelle inévitablement l'épisode Poussière de Lune de la saison 3 de la série The Crown. Lorsque le prince Philippe réclame un entretien privé avec les trois astronautes de la mission Apollo 11 et leur voyage sur la Lune, il s'imagine de véritables héros, des dieux intouchables, et sa déception devant le spectacle de ces trois hommes cruellement humains est à la hauteur de l'admiration qui leur nourrissait une heure avant. Une scène qui dit tout, criante de vérité, l'imagination n'est qu'une énorme menteuse. Merci Camille de nous rappeler cette scène de la série The Crown. Oui, Jean-François Marmion, on peut être déçu aussi. Alors est-ce qu'il ne faut pas rester dans une forme d'illusion? Est-ce que d'ailleurs la fan attitude est une illusion?
En fait, la déception peut aller jusqu'au sentiment de trahison. Et c'est là où ça devient dangereux. C'est-à-dire qu'on idéalise tellement quelqu'un que quand on s'aperçoit qu'il est ordinaire ou quand il fait quelque chose qui nous déçoit, on peut mettre, pour le détester, la même énergie qu'on mettait à l'adorer. L'exemple type, c'est George Lucas, le créateur de Star Wars. Alors, tous les fans des épisodes 4, 5, 6 dans les années 70-80 l'idolâtraient, mais quand il a sorti de nouveaux épisodes à la fin des années 90, ils se sont sentis trahis. Ils ont dit, c'est pas mon Star Wars, qu'est-ce qu'il fait? Il devient commercial, il s'est trahi lui-même. Et comme s'il n'était plus le créateur de tout ça, mais celui qui vient gâcher une espèce de mythe préexistant. Il est humain, il est faillible, il est moins bon que d'habitude. Alors on lui en veut mortellement. Et oui, ça peut être très très dangereux.
Et donc il y a quand même une certaine vigilance à conserver, David von Graffenberg. C'est vrai qu'on peut passer de l'admiration à la haine. Ça fait quand même reposer sur les épaules des artistes, des personnalités, une responsabilité parfois qui est complètement déplacée, je dirais.
Oui, mais ça c'est quand il y a une dimension de... C'est quand la base n'est pas saine, quand on cherche à obtenir quelque chose de l'autre ou... vivre une vie qui n'est pas la sienne à travers l'autre. Je crois que ça dépend. Moi j'ai confiance en l'élan premier s'il est sain et sincère. Effectivement, je pense que les personnes apportent énormément, mais oui, ça dépend de comment
ça se passe. Ça peut, oui, mais si. Donc ça veut dire aussi que parce que certains s'interrogent, est-ce que finalement les fans qui suivent, qui attendent des heures sous la pluie, les fans qui ont des posters de leurs artistes préférés chez eux, et je ne porte aucun jugement, hein, mais est-ce que ça n'est pas aussi quelque part une réponse à un sentiment de solitude? C'est ça aussi, David, que la question que certains auditeurs disent.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est lié au sentiment de solitude, au sentiment d'incompréhension. C'est le sentiment d'être le vilain petit canard de la famille, en fait. De ne pas retrouver, de ne pas retrouver sa place au sein de la famille et du coup d'aller la chercher ailleurs désespérément, bien sûr.
Ouais. Jean-François Marmion. Oui, pardon, David. Excusez-moi.
Non, je disais que c'est le petit canard est un rôle très difficile à tenir dans une famille, mais il est important de le tenir aussi jusqu'au bout, car quelquefois il sert de moteur ou de chemin, oui, ou d'indicateur de chemin pour le reste de la famille.
Jean-François Marmion.
Oui, ceux qu'on considère comme des stars, c'est un peu les gens qu'on voudrait être. Dans une autre vie, j'aurais aimé être comme, je sais pas, comme Johnny qui arrivait sur scène pendu en hélicoptère. Ça, ça avait de la classe, tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des stars plus accessibles aussi. Il y a des stars qu'on aime tout simplement parce que on se reconnaît en elles et ça pourrait être des amis, ça pourrait être des frères et sœurs si on les rencontrait dans la vraie vie. Il n'y a pas ce rapport. Par exemple, vous, Flavie, voilà, je pense que les gens qui vous écoutent tous les jours.
Vous êtes fan,
Jean-François? Vous leur apportez de l'oxygène. Et on sent que vous pourriez vous la péter, mais vous ne la pétez pas. Vous êtes accessible, naturel. Donc, les gens vous aiment parce que vous pourriez être leur sœur ou leur ami. Pas parce que vous arrivez à RTL pendu à un hélico, mais ça va peut-être venir.
Ah mais attendez, d'abord, vous ne savez pas comment j'arrive à RTL.
Oui,
déjà, vous
c'est
n'avez
vrai.
Absolument aucune idée de mon moyen de locomotion. Et puis, vous avez raison, mais moi, j'ai l'impression, effectivement, que la fanatitude et la passion est parfois, dirigée vers des personnes qui sont inaccessibles, je dirais. Ce qui n'est pas forcément notre cas à RTL, parce qu'on est proche aussi de ceux qui nous écoutent. Je vous remercie, messieurs, d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle un livre, tiens, parce qu'il faut lire pendant le confinement. Et d'ailleurs, il faut œuvrer pour que les librairies puissent réouvrir. Vous allez signer sur change.org et vous y trouverez le livre de David Fodd-Kraffenberg, Madame de X, chez Héloïse d'Ormesson. Je vous embrasse, David.
Merci, Flavie. Des baisers.
Des baisers. Et puis, Jean-François Marmion, eh bien, encore un happy birthday to you. Et je conseille votre livre, Psychologie de la connerie en politique. Encore un ouvrage qui pique et qui fait du bien aux éditions Sciences Humaines. Je vous embrasse bien fort, Jean-François.
Merci beaucoup.
À bientôt. Joyeux anniversaire. Bientôt. Allez, place à l'information sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.